Vercingétorix, Braine des Arvernes.
La jeunesse de Vercingétorix.
Quelle image on va garder de Vercingétorix? Alors moi, ce que je préfère, c'est la monnaie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une polémique sur cette monnaie. Plus exactement, les numismates pensent que, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, il ne s'agit pas du tout d'un portrait de Vercingétorix. Il s'agit d'une image du dieu Apollon. Alors, bon, ça a peut-être une chance que ça soit lui. Moi, je ne peux pas m'empêcher de garder au fond du cœur ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit. Je garderai toujours l'image du jeune chef gaulois, beau comme un dieu, héroïque, et qui a perdu. Je me rappelle des signes de piste où on voyait les légions gauloises contre les Romains. Je sais bien que cette monnaie, elle a toute chance de représenter Apollon, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça ne vaut pas la peine d'en faire.
Avant Jean-Louis Bruneau, qui sera notre invité, on aura entendu Christian Goudineau. Depuis le 19e, Vercingétorix a été hissé sur le pavois de la nation. Mais les 19 siècles précédents, il avait été négligé. Les historiens, les écrivains français étaient restés tributaires de César. Et Vercingétorix restait un personnage second. Non content de l'avoir enfermé dans un cachot, César l'avait enfermé aussi dans une histoire que son récit à lui contrôlait très exactement. Il est temps d'échapper à César. Les autres sources ne manquent pas. Et aussitôt peuvent surgir beaucoup d'hypothèses excitantes pour l'esprit. D'abord celle concernant César. Avait-il vraiment un projet pour la Gaule quand les circonstances firent qu'il s'y engagea? En réalité, il aurait aussi bien pu projeter son ambition ailleurs, mais les désordres dans le pays lui permirent d'amasser un capital militaire et politique qui allait lui servir pour prendre le pouvoir à Rome. La Gaule, maintenant, telle qu'elle était en 60 avant notre ère, désunie, inquiète, elle a offert à César une opportunité. Néanmoins, la promesse d'une Gaule unie existait, que Vercingétorix aurait pu saisir. Peut-être était-il né un peu trop tard. La stratégie à l'échelle du pays qui fut la sienne à partir de 53 aurait néanmoins pu réussir. Mais tout n'avait-il pas été joué un peu plus tôt? L'histoire, c'est une question de temps. Les années qui précèdent le moment de la victoire définitive de Rome méritent donc une relecture. César observe le silence sur ce qui fit Vercingétorix et il l'avait pourtant connu, de près et longtemps. Peu avant, 52, revenant à la monnaie, Vercingétorix battait monnaie dans son territoire arverne. Faisons encore une hypothèse qui est celle de Jean-Louis Bruneau. Le profil qui figurait sur ses pièces d'or était peut-être le sien, celui d'un jeune homme au visage volontaire qui mûrissait, mais oui, un projet pour la Gaule.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Louis Bruneau, bonjour.
Bonjour.
Chez Gallimard, un Vercingétorix. Après Alésia, on connaît aussi vos ouvrages sur les religions gauloises, les druides, les celtes. Alors vous êtes historien, vous êtes archéologue. On ne peut plus faire de fouilles programmées en France maintenant?
Ah non, il y a très peu de fouilles programmées en France en ce moment. Très très peu.
Mais on ne parle que d'archéologie?
Oui, mais ce sont les résultats des fouilles préventives, c'est-à-dire des fouilles dues aux grands travaux.
Ah, je vois que vous allez de temps en temps dire des choses qu'on n'entend pas d'habitude. Les sources, c'est un ouvrage de commande, bien sûr. Là.
Ah non, pas du tout. Non, c'est moi qui l'ai proposé à mon éditeur Rana Lévy chez Gallimard, à qui le projet a plu. Non, j'avais cette idée de faire une biographie d'un Gaulois et le seul qui s'y prête, c'est Vercingétorix.
Donc c'est un peu une sorte d'anti-boucheron, là, ce que vous nous proposez.
C'était pas ma volonté, en tout cas.
Dites-moi, les sources. Il y en a suffisance. Alors, vous parlez toujours de Poseidonios, c'est un géographe d'origine grecque qui est dans le sud de la Gaule une cinquantaine d'années avant les événements qui vont nous intéresser. Il y a aussi des sources postérieures qui témoignent de sources contemporaines de César qui auraient disparu.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans l'Antiquité, beaucoup des œuvres des historiens et des géographes ont disparu, surtout lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était une perte immense pour l'humanité. Et donc, il y a des auteurs qui ont totalement disparu, mais qui, heureusement, ont été souvent copiés, résumés par d'autres auteurs. Et c'est le cas des historiens contemporains de César, qui livraient une version tout à fait différente de celle de César. Et leur discours a été en partie repris par un historien très important, qui est Dion Cassius, qui est un historien grec, d'à peu près 2 siècles postérieurs à César. Et chez lui, on trouve un discours qui, justement, permet de balancer les propos de César.
Pour nos sources sonores, vous pardonnerez leur qualité. Vous devriez un jour nous faire quelque chose, un grand film sur la Gaule, comme il y a Rome,
la grande série. J'aimerais beaucoup, je pense que ça peut se faire.
Ça peut se faire, voilà. Bon, on apprend des choses aujourd'hui. La première de nos archives sonores, entre guillemets, c'est pas la plus mauvaise. Nous sommes en 122 avant notre ère, 2 générations avant Vercingétorix. La configuration politique va changer parce que le sud de notre pays actuel va passer aux Romains. C'est le désir de protection que ressent Massilia, l'ancor grec, qui permet aux Romains de s'établir.
Le commerce de Marseille par le Rhône vers l'intérieur subit des contre-coups fâcheux du fait que la ville était entourée de collines fortifiées habitées par des Gaulois ligures, farouches parmi les plus farouches. Leur ville, sur la colline d'Entremont, était devenue très importante et leur population, très dense, se répandait sur les collines voisines qu'ils fortifiaient aussi. Peuple guerrier, ils savaient cependant sculpter, influencés par la statuaire grecque, et ils nous ont laissé de leurs portraits. Ces guerriers, encore quelque peu sauvages, étaient une menace constante pour Marseille. Excédés par les attaques continuelles de ces Gaulois ligures qui descendaient comme la foudre de leur forteresse, les Grecs de Marseille élevèrent des murailles et firent appel à leurs voisins romains. Les Romains vinrent aussitôt et attaquèrent les Gaulois ligures, réfugiés derrière les murs de leur ville, qui fut rapidement prise et rasée. Marseille respira. Pas pour longtemps, les Romains restèrent, prirent rapidement toute la côte jusqu'aux Pyrénées. Ils fondèrent Narbonne, qui devint capitale de leur nouvelle colonie, prirent Toulouse et s'installèrent jusqu'au nord du Rhône. Tout le Midi devenait province romaine.
La voix de Jean Piat dans une émission ancienne d'Antenne 2 à l'aube de l'histoire en 1977. C'est pour ça que l'une des sources qui fonde votre Vercingétorix, Jean-Louis Bruno, Posidonios, peut circuler dans le sud du pays, une 20aine d'années après cet événement.
Oui, tout à fait. Donc, Posidonios, qui est un philosophe, un ethnographe quasiment avant l'heure, visite le sud de la Gaule, ce qui est devenu la province romaine, effectivement. Il traverse le pays et à cette occasion, donc, il rencontre des Gaulois, même des Gaulois de la Gaule intérieure, la Gaule chevelue. Et c'est grâce à lui qu'on sait beaucoup de choses sur la Gaule. Et son œuvre, qui elle aussi a été en grande partie perdue, heureusement était résumé, quelquefois recopié, par des gens comme César, mais aussi Strabon, Diodore de Sicile.
Et lui, par exemple, il pense la Gaule, vue de l'extérieur, vue du sud, comme un pays.
Ah oui, tout à fait. Lui, il donne son nom. Pour lui, c'est Galatia. Donc, c'était le nom que les Gaulois eux-mêmes donnaient à ce pays. Les Gaulois s'appelant eux-mêmes Galata. Donc, le Galie est venu par les Romains. Leur nom, à eux, c'était Galata. Et cette Gaule, c'est un espace politique plus qu'un pays. C'est un espace politique qui a aussi été initialement un espace spirituel qui a été forgé par les druides, avec les fameuses frontières dites naturelles que l'on connaît et que César indique dès le début de son ouvrage, qui sont les grands massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, les mers et puis le Rhin.
Alors peut-être pas un pays, mais une promesse fondée sur 2 projets de construction, au moins en pointillé pour la première d'entre elles, la Confédération des Celtes, avec des lieux pour se réunir, un projet de druide aussi.
Oui, c'est ça, c'est véritablement un projet de druide, vous avez parfaitement raison, une utopie en quelque sorte, à partir de cette confédération des Celtes, qui sont les peuples du sud de la Gaule et du massif central, qui commercent avec les Romains et qui, pour répondre à ce commerce, ont eu besoin de s'allier entre eux. Ils ont formé cette première confédération, qui ensuite a été agrandie volontairement par les druides, jusqu'à ces limites naturelles dont je viens de parler.
Les Arvernes, il y a évidemment une carte, fort heureusement, dans votre Vercingétorix, font partie de ces Celtes. Ils sont au centre de la Celtique. C'est l'un des 3-4 peuples les plus importants qui se recommandent du Mid-Celt. Ça va du sud du Bourbonnais aux Cévennes et aux Limousins. Et c'est une région suffisamment riche pour produire des produits qui sont complémentaires. Et au pied de cette région passent les chemins des Grecs que les Arvernes contrôlent.
Tout à fait, voilà. Donc les Arvernes ont une position centrale qu'ils vont exploiter politiquement, et c'est-à-dire que pendant des décennies, ce seront eux les patrons de la Gaule.
Sauf que, après l'événement que nous retracions au tout début, 122, l'appel aux Romains, l'installation durable des Romains au sud, le rôle des Arvernes va être diminué, parce que les Romains vont permettre le contact direct.
Voilà,
donc des Allobroges, la région de l'Isère, si vous voulez, avec les Éduins, un autre peuple gaulois, le Morvan.
Les Arvernes avaient une position sur leur belvédère naturel de l'Auvergne. Ils contrôlaient tout, ils contrôlaient notamment l'accès à la mer. Et donc la création de la provincia, donc la province romaine, les coupes de la mer et les coupes aussi du Rhône. Et cette voie du Rhône va être préemptée par les Éduins, donc le peuple du Morvan, qui est lié déjà depuis très longtemps avec Rome et qui va exploiter justement cette province.
Alors les Arvernes, dans un premier temps, réagissent. 120, donc 2 ans après l'événement que nous figurions au début de l'émission, les Arvernes lancent une guerre contre les Romains, un affrontement direct avec beaucoup de soldats les Romains.
Voilà, donc peut-être l'un des ancêtres directs de Vercingétorix, le fameux roi Bituite, le roi des Arvernes, constitue une armée qui est absolument gigantesque, hein, de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'hommes, et s'affronte aux deux consuls romains qui sont venus lutter contre lui. Et curieusement, alors que les forces romaines sont infiniment plus petites, Bituite est écrasé par les troupes romaines.
Alors c'est la première défaite arverne, le prélude peut-être à ce que Vercingétorix plus tard aura peut-être ressenti comme une malédiction. Je vais m'appuyer un instant, on avance dans le temps maintenant, on est à une génération et non plus deux générations en amont de Vercingétorix. Je m'appuie pour une fois sur César. Vercingétorix, fils de Celtil, arverne, c'est un jeune homme de grande puissance dont le père a obtenu le principat de toute la Gaule et a été tué par ses concitoyens parce qu'il aspirait à la royauté. Alors, vous nous avez décrit des Arvernes en position de défaite, en position d'attente, mais enfin ils sont en position de reconstruction et l'un d'entre eux, Celtil, au bout d'un moment, peut prétendre à prendre le leadership sur les Gaulois.
Oui, oui, ça c'est tout à fait étonnant, mais ce qui montre qu'en Gaule tout était possible, c'était aussi possible du fait même de Rome. Rome aurait très bien pu favoriser les Éduins qui étaient ses alliés, mais Rome avait très certainement peur de donner une place trop importante aux Éduins, et donc il s'assurait qu'il y ait des équilibres, une sorte de lutte interne entre les peuples gaulois. Et le père de Vercingétorix, qui était fort critiqué par les historiens du 19e ou même les antérieurs, était vraisemblablement un homme politique de grande envergure, puisqu'il a réussi à remonter la pente en quelque sorte, et à prendre cette place éminente qui est celle du patronat de toute la Gaule.
Oui, mais dites-vous, les Gaulois sont hostiles à la tyrannie et les classes populaires, sans doute plus encore que les aristocrates arvernes, ont débarqué Celtil.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est qu'il y a une vie politique extrêmement intense en Gaule et qu'il y a une forme de démocratie qui ressemble beaucoup à celle de la Grèce ou de Rome. Et donc les peuples admettent des rois qui sont simplement des magistrats provisoires, qui sont réélus tous les ans, et ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est la tyrannie, donc c'est l'installation d'une dynastie.
Alors, Vercingétorix ne va pas être déclassé par l'exécution de son père, il va garder l'héritage qu'il partage avec son oncle.
Voilà, Gobanitio.
Ouais. Avec qui les relations sont un peu compliquées. Alors, il habite une belle villa, on croirait presque une villa gallo-romaine.
Tout à fait, ça ressemble. Les fouilles récentes, justement, de ses habitats sur les oppidas, notamment Gergovie, Bibra, etc., montrent effectivement que ces demeures étaient déjà très proches de celles des Romains.
Alors, Gergovie, justement, ça a été le lieu où Celtil, le père, avait peut-être une demeure. Bon, excusez, là, la plaisanterie, vous allez peut-être la trouver un peu lourde.
Gergovie vit aujourd'hui un grand jour. En effet, il y a 2000 ans, Vercingétorix demandait alors qu'il allait mourir, que ses cendres reposent à Jurgovie, au milieu de ce peuple arverne qu'il avait tant aimé. Vous entendez la fanfare de Pérignat et Salier qui vient de jouer, et le consul d'Italie, M. Vermicelli, qui est venu spécialement de Rome pour remettre l'urne contenant les cendres de Vercingétorix. Ce sont de jeunes Auvergnats de Gergovie qui viennent de la recevoir. Vous voyez, ils sont un peu émus. La fanfare reprend maintenant pour fermer le banc. Et dans quelques instants, le cortège va aller sur la place de Gergovie, où se dresse un podium qui recevra l'urne contenant les cendres. Vous voyez que tout a été très bien fait. Toutes les personnalités de la commune sont ici, la maire, les pompiers. Eh bien, nous sommes maintenant sur la place de l'église. Après avoir fait le tour de Gergovie, tout le monde s'est retrouvé devant le petit podium qui va recevoir dans quelques instants l'urne contenant les cendres de Vercingétorix. Mais nous vous laissons écouter « Les Gaulois sont dans la plaine », un chant de circonstance interprété par la chorale de Gergovie.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Alors je doute qu'on retrouve les cendres de Vercingétorix. C'était le 1er avril de France 3 Auvergne.
Oui. C'était une plaisanterie un peu de mauvais goût. Puisque
en 1968.
Il y avait déjà eu une cérémonie funéraire sous l'occupation. Pétain avait fait une cérémonie avec un cénotaphe où il avait enterré des sachets de terre venant de toute la Gaule en grande cérémonie au même endroit. Donc effectivement, la plaisanterie est un petit peu lourde.
Non, mais comptez sur l'ignorance des journalistes pour ne pas se souvenir, 25 ans après, d'un fait qui s'est produit au même endroit. Alors, nous retrouvons avec vous le sérieux qui convient. Jean-Louis Bruno, Vercingétorix, votre livre chez Gallimard. Et puisque vous ne voulez pas rester dans la plaine de la Limagne, on va passer plus à l'est. Nous sommes maintenant autour de 60. Après 60, avant notre ère, de grands événements se préparent, auxquels les Arvernes vont peut-être se contenter pendant un premier temps d'un rôle de spectateur. Alors soit sur la carte, plus à l'est, les Helvètes.
Helvètes. Plateau suisse. Donc c'est la Suisse actuelle, en quelque sorte.
Et alors, attendez, des courageux. Hein,
un peuple très important.
Forte réputation.
Voilà, très, très guerrier, avec une réputation guerrière connue pratiquement dans tout le monde antique.
Et puis, les Germains.
Alors les Germains, ce sont les gens d'au-delà du Rhin, sont des gens qui sont considérés, notamment par Posidonios d'Apamée, comme des nomades, donc des gens un peu incontrôlables, qui sont des cousins en quelque sorte, ils sont proches des Gaulois, mais ils ne sont pas dans cet espace politique que l'on a indiqué.
Alors ils vont s'installer comme des coucous chez les Sequanes, qui avaient fait appel à leur talent guerrier, et qui vont les voir s'installer. Il y a une telle pression des Germains qu'elle contribue à pousser les Helvètes, donc dans ces années d'après 60, à imaginer, ça c'est difficile pour nous à penser, une grande migration.
Oui, une
prévue, programmée, de dizaines de milliers de personnes.
Ah, plus de 300 000 hommes.
Mais comment vous savez ça, 300 000 ?
Ah bah parce que César l'indique, et il indique surtout que lorsqu'il a ramené les Helvètes chez eux, en quelque sorte, il a retrouvé des tablettes où le recensement était fait avec les familles, leur nombre d'individus, etc.
Alors, ils décident de partir pour échapper au danger, au piège dans lequel ils se trouvent. Ils mettent le feu, dites-vous, à leur ville, elles sont une douzaine, à leur village, ils sont 400, pour ne pas avoir à revenir. César, il est où? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là?
Alors à cette époque-là, il a quitté son consulat, il devient proconsul, donc on lui a attribué des provinces, on lui a attribué la province romaine de la Gaule, on lui a attribué aussi l'Illyrie, c'est-à-dire la bande actuellement correspondant à l'espace entre l'Italie et la Grèce, et lui, il a plutôt prévu d'aller faire une conquête de l'Illyrie, parce que chaque proconsul avait pour mission en quelque sorte de faire une conquête, et puis surtout de s'enrichir pour ensuite assurer sa carrière politique.
Mais pas de chance pour la Gaule, les Helvètes attirent son attention.
Oui, enfin...
Ils se mettent dans sa ligne de mire.
C'est surtout les Éduins, et c'est surtout un personnage très important, qui est Divicac, qui est le chef politique des Éduins, qui avertit César, avec lequel il est très lié, et qui se sert du prétexte de cette migration des Helvètes pour faire venir César en Gaule.
Parce que César, a priori, d'après la description que vous en faites à cet instant X, il n'a pas nécessairement de projet précis sur la Gaule.
Ah non, pas du tout. Il a même déjà rassemblé ses régions en Vénétie, ses légions en Vénétie, pour justement frapper en Illyrie.
Ouais. Il va fondre sur les Helvètes sans trop de danger.
Bien sûr, c'est extrêmement facile de s'en prendre à un peuple qui se déplace avec ses chariots, ses femmes, ses enfants, ses vieillards. Et surtout, lorsque ce peuple franchit la Saône, c'est un passage très très difficile, c'est le moment où il les attaque, donc vraiment dans une situation de faiblesse terrible pour les Helvètes.
Chronique d'un massacre attendu.
Absolument.
Restera après le danger germain.
Oui, alors ça, le danger germain, c'est important, puisque déjà les Gaulois s'étaient rassemblés pour lutter contre les Germains, qui non seulement voulaient envahir les terres des Séquanes, mais avaient commencé à envahir tout l'est de la Gaule, donc l'Alsace notamment. Et il y a eu une bataille très importante dans les années 60, qui avait vu la victoire du chef germain Ariovist. Donc le danger était très important, et donc à la suite de cette pseudo-victoire de César sur les Helvètes, des délégués de toute la Gaule sont venus voir César pour lui demander de les aider à lutter contre les Germains.
Alors César conclut un pacte avec eux, et pour sceller le pacte, pour que l'alliance dure, il demande aimablement aux Édouins, aux Arvernes aussi, qui reviennent là au premier plan, de lui livrer des aristocrates qui seront à la fois des auxiliaires et des otages.
Ah oui, alors quand vous parlez de pacte, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut appeler ça un véritable protectorat. C'est-à-dire que Rome accepte de protéger les Gaulois, mais à des conditions qui sont vraiment léonines, c'est-à-dire que les Gaulois doivent fournir des armes, des guerriers, des chevaux, des impôts, et surtout des otages, et les otages sont demandés à tous les peuples. Et ces otages, ce sont des otages un petit peu à la mode médiévale, c'est-à-dire que ce sont des jeunes princes qui vont être de la cour de César.
Allez, encore une source en attente de grands films sur la Gaule qui viendra peut-être un jour. Là, on est sur un site qui s'appelle Confession d'Histoire.
Bonjour. Excusez-moi, il y a mépris, je suis pas un Gaulois. Je suis un Arverne.
C'est Pascal Parmentier qui, dans un dispositif de télé-réalité, représente Vercingétorix et qui dit ce qui advient à cet instant précis où la négociation sur les otages a eu lieu de Vercingétorix.
Ah oui, les Arvernes, on était alliés. Ah, mais c'est qu'on se connaît bien avec César, on a combattu ensemble. D'ailleurs, à mes débuts, j'ai même été son contubernalis sur les champs de bataille, son compagnon de tente. Attention, hein, en tout bien, tout honneur.
Oui, contubernalis, ce serait de mauvais goût de dire que ça suppose une relation intime entre Vercingétorix et César, encore que vous soulevez l'hypothèse. Non, c'est surtout un gentilhomme de l'entourage de César qui participe à ces réunions publiques.
Ah oui, ce sont des jeunes princes qui sont considérés par César et par d'ailleurs ses lieutenants comme les jeunes princes romains qui accompagnent César, c'est-à-dire qu'ils sont dans la cour, ils vivent dans les quartiers de César, alors pas évidemment dans la même chambre que César, mais ils ont une position très importante et César utilise cette position d'otage pour faire l'éducation de ces jeunes otages. Il fait l'éducation de Vercingétorix.
Et Vercingétorix a l'occasion d'apprécier la puissance des 30 000 légionnaires romains. Alors, il y a les auxiliaires gaulois dont il est. Lui commande un petit bataillon. Il y a la foule qui accompagne la troupe. Et ce livre, à en croire, ça encore, c'est une source sérieuse. Alsace Soir, 2001 d'Alsace. Des batailles gigantesques dont je m'étonne que dans votre livre si savant, il n'y ait pas de récit complet.
Mais que fait Ariovist? Quel est son plan de bataille? Le chef germain semble éviter toute confrontation. Les augures lui annoncent la défaite. Il doit attendre la nouvelle lune pour espérer la victoire. Un renseignement plus que précieux pour César. Il donne immédiatement l'ordre d'attaquer. Des dizaines et des dizaines de milliers de cadavres jonchent le sol. Face à la puissance romaine, les Germains ont tenté de franchir le Rhin. Dans leur débâcle, des femmes mêlées aux combattants sont mortes piétinées, écrasées. Parmi elles, les deux épouses d'Ariovist et une de ses filles. Le roi Germain lui échappe de justesse à César. Il réussit à traverser le fleuve dans une nacelle de pêcheurs. César a gagné. César a vaincu. César découvre le Rhin.
Une bataille de 58 du côté de Wittelsheim. Alors vous qui êtes si attentif aux chiffres mirifiques qui sont produits ici ou là, c'est encore une fausse bataille, allez-vous dire ?
Ah non, 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 c'est une vraie bataille, mais c'est une bataille qui, là on le sait, a été en grande partie menée par les Gaulois. C'est-à-dire que César était quelqu'un de très futé, et surtout il avait un nombre de légionnaires qui était fixe. Donc son nombre de légions... Bon, sauf largesse du Sénat qui lui en offrait quelquefois une ou deux de plus, mais il avait un nombre de soldats limité, et lorsqu'il mourait, il n'était pas remplacé. Donc surtout, il veillait à ce que ses légionnaires restent vivants, et il faisait combattre les Gaulois à sa place.
Là, parce que vous dites, de 58 à 56, il mène une guerre qui n'en est pas une, contournant la Gaule, alors il va après l'Alsace du côté des Belges, et puis après du côté de la Manche, et puis après du côté de l'Atlantique, jusqu'aux Pyrénées. Et en même temps, vous expliquez que selon vous, Vercingétorix est resté 3 ans à ses côtés, il l'a entraîné dans...
Ah oui, effectivement, les otages suivaient César. Alors, il y avait certainement 2 catégories d'otages. Les otages du plus haut niveau, donc des gens comme Vercingétorix, qui étaient toujours proches de César, qui étaient dans ses quartiers. Et puis, d'autres otages qui, de moins d'importance, qui eux pouvaient être cantonnés, notamment à Nevers, qui était vraiment une base logistique de l'armée romaine. Mais sinon, ce Vercingétorix a accompagné, effectivement, César.
Puis il rentre chez lui avec la bénédiction de César, qui le laisse devenir roi, au sens que vous disiez tout à l'heure des Arvernes, et qui le considère peut-être comme un allié.
Ah tout à fait, bien sûr, c'est le rôle qu'il impartit à Vercingétorix, c'est cette formation dont je vous ai parlé à l'instant, c'est-à-dire qu'il a profité de ces 2 ou 3 ans passés à côté de lui pour qu'il se romanise en quelque sorte.
Et c'est là qu'il frappe les monnaies dont on parlait au début
de
l'émission.
Oui, parce que c'est effectivement très important d'avoir... des monnaies à son image, et c'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec Christian de Goudineau, avec lequel j'ai eu beaucoup d'accord par ailleurs, mais là-dessus je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que ce modèle d'Apollon et des monnaies de Philippe II de Macédoine, ça remonte à 260 avant Jésus-Christ, et à l'époque de Vercingétorix, plus personne ne sait qui est Philippe de Macédoine.
Et puis en dessous de ce qui n'est peut-être pas un portrait d'Apollon, il y a écrit très clairement
exactement,
Vercingétorix.
Exactement. Et justement, sur les monnaies grecques qui ont servi jadis de modèle, le nom se trouve pas sous Apollon. Et là, sous le visage, c'est bien le visage de Vercingétorix.
Cette émission s'appelle La Genèse de Vercingétorix. Si vous voulez savoir pourquoi, à partir de 53, Vercingétorix s'imagine un autre destin que celui de vassal de César, il faut lire le livre de Jean-Louis Bruneau. Mais puisque vous parliez de Christian Goudineau, nous allons l'entendre traduire, on fait un petit saut dans le temps, le moment de la reddition, en 52.
Youbet, il ordonne, armat radi, que les armes soient livrées. Principes produci, que les chefs soient produits, soient amenés. Bon. Lui-même, in munitione, lui-même, sur le retranchement, devant le camp, quand c'est dit, va s'établir, les chefs sont amenés, Vercingétorix est remis, les armes sont projetées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les armes sont projetées ?
Je dépose les armes, je suis à toi, César.
Et si vous voulez lire des pages de roman, celles consacré par vous, Jean-Louis Bruneau, aux entretiens qu'aurait pu avoir Vercingétorix défait, l'hiver à Bibracte avec le
dit Jules César.
Voilà, et effectivement, César est resté tout l'hiver à Bibrac, c'est-à-dire l'actuel Montbeuvray, avec son prisonnier. Et lorsqu'on lit tout le long passage du livre 7, qui est consacré justement à cette épopée de Vercingétorix, les discours qu'il met dans la bouche de Vercingétorix sont si précis qu'on ne peut imaginer qu'ils ont discuté ensemble très longuement et que César a reproduit ce que lui a rapporté Vercingétorix.
L'émission était réalisée par Valérie Estaraï, préparée par Frédéric Martin, Gaël Braouezek à la technique.